J'ai eu à cœur depuis quelque temps de méditer sur le thème du vrai disciple, du vrai disciple, pour des séries que je dois donner bientôt dans le midi à Lille et ailleurs, parce que je crois que c'est un sujet terriblement, terriblement important. Mais j'aimerais rappeler qu'une différence entre un disciple de Jésus-Christ et un disciple, par exemple, de qui est-ce que je pourrais imaginer, Michael Jackson, par exemple. Les disciples de Michael Jackson, je ne sais pas si on a ici qui lève la main. Ah bon, il y en a, c'est ça. Alors, s'habille comme Michael Jackson. Je n'ai pas habillé comme Michael Jackson. Et puis, marche comme Michael Jackson. Je ne sais pas si je saurais marcher comme Michael Jackson. Mais avec Jésus-Christ, c'est tout différent. Ce n'est pas copier quelqu'un. Ce n'est pas essayer de faire comme quelqu'un. C'est d'avoir une toute nouvelle vie. Un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui, comme 2 Corinthiens 5 et 17 le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, merci, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas quelques-unes, mais toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 et 17. Juste avant de vous lire le passage qui va être cité sur le tableau, je vous raconte une petite histoire. Je suis un homme à histoire parce qu'on se souvient des histoires après. Il y a une dame qui attendait l'arrivée de son mari à la fin du travail. C'est bien d'être attendu par quelqu'un. Hein? Elle attendait l'arrivée de son mari et puis quand il est arrivé, elle a dit « Mais tu sais, il y a un monsieur qui est venu à la porte ce matin et il a demandé si je connaissais Jésus. » Et qu'est-ce que tu as dit ? Mais je ne savais pas quoi lui dire. Mais tu aurais pu dire, mais je suis membre de la chorale, j'ai été baptisé, je suis membre de telle et telle église. Puis elle a dit, mais c'est pas ça qu'il m'a demandé. Hein. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. Et je crois que c'est ça l'important avant tout. Alors j'aimerais lire avec vous un verset dans les Actes que vous connaissez probablement, mais c'est bien de le relire. Chapitre 11 des Actes, et au verset 26. Durant toute une année, les apôtres participaient aux réunions de l'Église et enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. J'ai regardé ça dans les traductions, je ne suis pas fort dans les autres langues, mais j'essaie de comprendre ce que cela voulait dire. Ça voulait dire que les disciples devenaient des gens attachés tellement à Jésus-Christ, quand on les voyait, on disait que ce sont des chrétiens, des gens de Christ, habillés comme Christ, pardon le vêtement, hein, mais habillés comme le Christ dans leur marche, leur démarche, leur manière d'être. C'est tellement, tellement, tellement important. Et j'aimerais lire par la suite dans Marc 1, Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1, et le verset 14, si vous voulez bien. Je lis dans la traduction de M. Kuhn, qui est quelquefois plus frappant, plus poignant, et on se souvient bien. Marc 1, et puis à partir du verset 14 de ce passage. Verset 14. Par la suite, Jean fut arrêté parce qu'il suivait Jésus-Christ. Ça ne nous est pas arrivé encore, hein? Mais c'est arrivé à des chrétiens de nos temps. Vous avez regardé les multitudes qui partent de l'Irak, qui partent de la Syrie, des chrétiens qui n'ont plus le droit de vivre. Donc ils partent. Jean fut arrêté, on le jeta en prison. Après cela, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il dit, « Le moment est venu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche, tout proche. Repentez-vous et acceptez avec foi la bonne nouvelle. » Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il aperçut Simon et André, son frère, qui étaient en train de lancer un filet dans l'eau. Ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, venez, et je ferai de vous de pécheurs d'hommes. » Et c'est de même, tout de suite, ils abandonnent leur filet, tout de suite. Dans les trois évangiles synoptiques, il est dit « immédiatement » ou « aussitôt ». Donc immédiatement, ils abandonnent leur filet, ils se joignirent à Jésus-Christ. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Ils étaient aussi assis dans leur barque et réparaient leur filet. Il les appela, et tout de suite, ils laissèrent là dans la barque leur père Zébédée, ses employés, ils s'en allèrent pour suivre Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Jésus a dit de faire des disciples. Si vous regardez le Nouveau Testament, c'est la pensée primordiale qui ressort, que notre tâche est de faire des disciples. Mon travail, c'est de faire des disciples. Votre travail, c'est de faire des disciples. Le travail de chaque membre de cette communauté est de faire des disciples. S'il y avait 3000 personnes qui se sont converties au début par la prédication de Pierre, c'était parce qu'il y avait des gens qui faisaient d'eux des disciples. C'était tellement important pour Jésus-Christ qu'il passait la nuit sur la montagne pour prier son Père, pour que son Père dise les noms de ceux avec lesquels il devait vraiment investir. Parce qu'il y a des gens chez lesquels on a à cœur d'investir, des hommes et des femmes qui pour moi sont sur ma liste de prières et je prie pour eux, pour que celui-là devienne un gagneur d'âmes, pour que celle-là devienne aussi une gagneuse d'âmes. C'est fantastique quand on voit cela. L'autre jour, j'ai pu voir un de mes arrière-petits-fils. Vous imaginez? Vous ne saviez pas que j'avais tant que ça. Un de mes arrière-petits-fils, parce qu'il est le fils de quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui connaissait le Seigneur à cause de quelqu'un d'autre qui connaissait le Seigneur. Et la suite, j'ai eu le privilège d'amener le premier dans la ligne au Seigneur et de voir un ici, un là, un là, un là. C'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que dans tous les continents du monde, sauf l'Europe, l'Église est en pleine expansion. Notre sœur nous le dira, au Brésil, c'est fantastique l'accroissement de l'Église. C'est sûr, il y a des choses qui vont en même temps, avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord, avec cet enseignement de la prospérité, l'évangile de la prospérité, qui n'est pas tellement biblique. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui se convertissent. On nous dit que l'Église en Chine et l'Église en Inde ensemble, ça dépasse toutes les autres églises évangéliques du monde. Vous voyez ça? Chine et l'Inde, c'est fantastique cela. Donc l'objectif de Jésus-Christ était de former des disciples. Et nous lisons cela dans Marc 3, c'est tellement important de le lire et de le noter. Il monta sur une colline avoisinante. Il appelait auprès de lui ceux qu'il avait choisis comme collaborateurs. Ils les rangèrent à ses côtés. Il a désigné 12 pour faire cela. C'est son temps, sa tâche. Et j'aimerais partager avec vous que le Seigneur m'a montré qu'il y a 3 étapes dans la croissance d'un disciple. Et je me suis regardé, j'ai demandé au Seigneur sur quelle étape j'étais. Une première étape. Première étape, c'est ceux qui fréquentent Jésus pour les fêtes. Vous connaissez cela? Qui sont heureux d'être dans les réunions de famille. Qui sont heureux quand on parle de Jésus, qu'on chante des cantiques. Surtout quand on chante des cantiques, on lève les mains, on applaudit. Là, ils sont heureux d'être là. Mais ici, nos amis nous avaient amenés à verser les larmes ce matin. Ils n'auraient pas eu tort. Hein? C'était dans cette direction qu'ils allaient. Est-ce qu'on aurait été aussi marqué? Il est mort pour nous, son sang était versé pour nous. Versé pour moi, parce que je suis pécheur. Et tout au début de ceux qui fréquentaient Jésus, parce qu'ils étaient dans la bande des copains, des copines, tout au début, Jésus voulait éprouver leur foi. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un dont la foi a été éprouvée. Ça vous encourage? Il y en a peut-être qui sont découragés ce matin parce que leur foi a été éprouvée. Hein. Moi, j'ai été aussi découragé pour des choses comme cela. J'ai été découragé quand au mois de juin, je n'ai pas pu aller en Tunisie comme moi j'avais proposé d'y aller. Mais pour des raisons pratiques et matérielles, je n'ai pas pu acheter les billets. Je ne suis pas allé. Ce n'était pas le moment que le Seigneur avait préparé. Mais il y a d'autres moments, on est découragé parce que notre foi est éprouvée. Et quelquefois, des gens suivent Jésus uniquement parce qu'ils veulent voir les miracles. Nous, on suit Jésus, j'espère, parce qu'on sait qu'il nous a aimés le premier. Pas parce qu'il fait des miracles, mais parce que Jésus nous aime et parce qu'il veut qu'on soit avec lui dans l'intimité. Et un jour, le Seigneur est avec toute une grande foule, et cette foule est venue, enfin les représentants de la foule et les disciples sont venus vers Jésus en disant, « Mais maître, tu ne te rends pas compte. » Je ne sais pas s'ils ont dit, comme ma femme dit quelquefois, « Tu as prêché trop longtemps. » J'espère que non. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? La boulangerie du coin est fermée parce que ce sont des vacances. Non, ce n'est pas dans la Bible ce verset-là. Hein? Mais c'est un peu l'histoire, hein? Il n'y avait rien. Et le Seigneur leur dit, mais allez, donnez-leur vous-même à manger. Et quand le Seigneur demande quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Mais flûte, je n'ai pas demandé ça. Hein? Je n'ai pas demandé que le Seigneur me prenne vraiment ma parole. Hein? Ma petite fille qui a 18 ans, je suis fier d'avoir une petite fille de 18 ans, je ne pensais jamais que j'en aurais une. Et elle me dit, « Papi, je veux devenir missionnaire. » Je suis touché par cela. Elle me dit, « Papi, je voudrais venir avec toi en Afrique un de ces jours. » Je suis doublement touché encore là. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça à 18 ans. Hein? Moi, je l'avais dit à 18 ans. J'avais l'appel pour aller chez toi là-bas en Afrique, Amérique du Sud. Je suis allé qu'une seule fois de toute ma vie depuis, une seule fois. Mais j'allais y aller, j'étais convaincu que le Seigneur voulait m'avoir là-bas parce que ça semblait très intéressant. Mais je ne suis pas allé. À la place de ça, un jour dans ma vie, je me suis expatrié pour aller au Québec. Et là, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a ramené chez nous en France. Alors voilà, ces disciples sont près de Jésus. « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va les nourrir ?» Et le Seigneur dit, « Ça, c'est votre boulot, ça. C'est ton travail. » Et si le Seigneur nous dit un de ces jours, « Mais c'est ton travail. » Moi, je me souviens, j'avais 24 ans à Paris. Je commençais à enseigner au lycée. Il y avait un évangéliste, un missionnaire irlandais, un homme formidable, plein de gentillesse et d'amour. Et je me souviens d'un samedi matin qu'il m'a dit, « J'aurais besoin de ceci. » J'ai dit, « C'est quoi ça ?»« Mais c'est la caisse avec les cantiques. » Il dit, « Oh, je n'ai pas besoin, je ne suis pas fort en chant, moi. » « Et tu auras besoin de ça, ça c'est pour les offrandes. » Il dit, « Quoi ? Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et tu auras peut-être besoin d'une clé pour la salle. » Il dit, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Puis il m'a dit, « Mais le Seigneur m'a appelé à aller habiter au Chambon-sur-Lignon. » pour répondre à un besoin. Et dans la prière, le Seigneur m'a dit que c'était toi qui pourrais prendre la relève. Il dit que j'étais pas candidat. Hein. J'étais pas candidat. Mais j'ai dû apprendre un tas de choses que je ne sais pas encore bien faire. Enfin, j'ai dû boucher les trous, être fidèle. Si le Seigneur t'appelle, le Seigneur savait comment il allait répondre. Mais il les a mis au pied du mur. Allez-y, débrouillez-vous. Il sait comment il va répondre, bien-aimé, à ton problème de demain. Il sait comment il va répondre. Il sait comment il va répondre à notre problème de savoir si on est gestion, on y soit, on ne sait pas. On n'arrive pas à savoir. Et le Seigneur va répondre de sa manière, en son temps. Et le problème que tu as ce matin, la difficulté avec laquelle tu es venu à l'Assemblée, ce problème qui te taraude depuis un bon petit moment, et tu ne vois pas la solution, tu ne vois pas comment. Le Seigneur a la solution. si tu le laisses faire de sa manière, pas de la mienne, ni de la tienne. Parce qu'il veut nous instruire dans la foi. Je ne veux pas faire un jeu de mots, mais la foi est plus importante que le foi. Et tous les deux font le même travail. Le foi, ça purifie notre sang. La foi, ça purifie notre vie spirituelle. Parce que ça nous met au pied du mur et ça enlève les choses secondaires pour qu'on soit quelquefois vraiment au pied du mur. Je me souviens un jour, j'ai rencontré mon beau-père, j'étais encore étudiant à Paris. Il m'invite à manger. Il me dit, je dois faire toute une mission qui commence demain soir. Et je ne sais pas ce que je dois dire. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que j'aie la foi nue. J'ai jamais oublié ça. La foi nue. Et quelquefois dans nos vies, c'est ça. Il ne veut pas nos arrangements, nos organisations, nos projets, nos idées à nous. Il veut une foi nue en dépendant de lui. Est-ce que j'ose citer un cas personnel parce que ça vit un peu plus quand on fait cela? On devait aller en Bretagne au mois de juillet. Tout était organisé. Et le jeudi, avant de prendre l'avion mardi, on n'avait pas l'argent pour l'avion. Et puis j'ai essayé quand même de jouer avec mon ordinateur pour trouver s'il y avait des places dans l'avion. Et l'ordinateur ne m'a pas donné une seule place comme je le voulais. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je n'ai pas l'argent pour y aller parce qu'il n'y a pas de place. Le Seigneur m'a dit, c'est mon affaire. Et je suis descendu à la BNP à Saint-Genis. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé. La caissière vient me dire, monsieur, vous savez qu'il y a un versement sur votre compte ce matin? J'ai dit, quoi? La première fois qu'elle me dit ça. Jamais dit ça. J'ai regardé, et c'est vrai, il y avait 1000 euros qui étaient versés sur mon compte. Mais je dis, Seigneur, mais je veux bien, mais je ne peux pas prendre mon vélo pour aller en Bretagne. Et faire ça en voiture, moi je veux bien, mais ma femme, elle est trop fatiguée pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et le vendredi matin, le Seigneur m'a dit, réveille-toi, va essayer ton ordinateur. Et deux places sont tombées de mon ordinateur. Vous imaginez ça? Il n'y en avait pas la veille. Moi je me suis dit, il y a deux personnes qui ont prié. Il y a peut-être aussi deux personnes qui ont décommandé. Mais c'est ça que le Seigneur veut de ses disciples, qui comptent sur lui parce que nos problèmes à nous. Une deuxième étape après celle de commencer à expérimenter la foi. Je ne sais pas si j'étais clair là. C'est tellement important de juste vivre par la foi. Dans la vie chrétienne, notre démarche principale, c'est la foi. Les questions de demain, c'est la foi. Comment on va faire ceci ou cela? C'est notre foi. D'ouvrir les portes là où le Seigneur veut qu'elles s'ouvrent. Et puis la deuxième étape, moi je trouve assez négative, mais j'ai trouvé que c'était quand même là dans la Bible. Et quelquefois la parole de Dieu n'est pas toujours jojo, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et la vie chrétienne n'est pas toujours jojo non plus. Enfin, la mienne, peut-être pas la vôtre. Ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur va vers les pécheurs, ses disciples, et il dit, mais comment ça s'est passé? Allez chercher du poisson. Mais, maître, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Tu ne comprends rien? On a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Est-ce qu'on va se faire ça à la fin du club d'enfants? Moi, c'était fantastique ce club d'enfants. J'étais béni par vous, par votre fidélité, par votre manière d'être dans ce club d'enfants. C'était un témoignage vraiment vivant de la communauté locale. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui reste? Ah, tu ne sais pas ce qui reste. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas la mienne. Mais il y a des gens qu'on rencontre dans la rue qui ont été touchés par notre témoignage. L'autre jour, je traversais la place à Thoiry quand une personne vient me voir. « Brion, vous êtes toujours là ?» On pensait que vous n'étiez plus là. C'est une personne qui avait bu, je ne sais pas combien de bouteilles ce matin-là, parce que ça sentait à 1 kilomètre. Puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je ne sais pas qui c'était, je ne peux pas vous dire son nom, hein. Connaissez le mien. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites, vous? Oh, moi, je suis au bout du rouleau. Elle dit, c'est intéressant, je connais quelqu'un qui est spécialiste pour ceux qui sont au bout du rouleau. Ah bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, au bout du rouleau, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, mais est-ce que vous l'avez compris pour ça? Comment? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? J'ai dit, mais écoutez, moi je vais prier. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas si je vais le rencontrer de nouveau en traversant la place, mais je prie pour que le Seigneur intervienne. Je dis, il y a quelqu'un qui répond, qui porte nos problèmes. La Bible dit, si vous vous déchargez auprès de lui, il prend soin de nos soucis. Vous savez ça? Je peux dire ça à quelqu'un? La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5 et 7, nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, Simon? Il a regardé le Seigneur. Seigneur, on n'a rien pris. Je ne sais pas quelle langue il a parlé. Niet, que dalle, rien. Je ne sais pas quelle langue. Seigneur, on n'a rien pris. Ça n'a pas d'importance. Vas-y, lance tes filets dans l'eau profonde. J'aime bien que ce point soit noté là. Que ça rende l'impossibilité des choses dans l'eau profonde. Et il aurait pu répondre, mais Seigneur, on a fait ça toute la nuit, tu n'as rien compris. Non, il ne dit pas ça. Mais sur ta parole, nous le ferons. Ça, c'est la marche par la foi. Sur ta parole, nous ferons ce que tu nous demandes. Bien-aimé, est-ce que dans la Bible, dans la parole, dans les notes de ce matin, vous les avez lues? Ou les notes d'hier, je vous les recommande si vous ne les avez pas lues. Dans les notes d'hier, il nous était dit d'être des Barnabas, des gens qui ont courage. Alors ma femme a dit au Seigneur dans la voiture, il faut qu'on soit des gens qui ont courage. C'était ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous êtes prêts à répondre à ce qu'il nous dit? À lancer les choses même dans l'eau profonde. Et c'est là où le Seigneur parle à Simon de nouveau. Il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Luc 5 et verset 10. Luc 5 et 10. Sois sans crainte. Suis-moi et je te ferai un pêcheur d'hommes. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés. C'est pas de passer des examens. C'est pas de passer des examens. Je bénis le Seigneur d'avoir le privilège d'apprendre dans une école biblique ou une faculté de théologie et d'enseigner dans une faculté de théologie. Je puis vous dire quand même que c'était les années les plus difficiles de ma vie. C'était les années les plus difficiles de ma vie. Ce n'est pas la théorie qui est une bénédiction, mais c'est la vie personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Que dit-il à toi ce matin? Si tu me suis, j'ai un travail pour toi. J'aimerais dire ça à ceux qui ont été jeunes depuis longtemps. Quand les jeunes me rencontrent, je dis, j'étais jeune depuis beaucoup plus longtemps que toi. Hein. Mais ceux qui sont plus âgés dans l'assemblée, il y a encore du travail, encore des tâches à faire, encore des vivres à vie à vivre, encore des ministères, encore des possibilités d'être des bénédictions. Des bénédictions. Il y a un homme qui est toujours une bénédiction pour moi depuis la première fois que je l'ai vu ici. La première fois que je l'ai vu ici, il y a 11 ans, Pierrot m'a amené vers une chaise et il a pris soin de moi. Et chaque fois que je le vois, c'est une bénédiction de le voir. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est d'un certain âge. Moi, je ne suis pas vieux. J'ai de l'âge, c'est tout. Ce n'est pas la même chose. Et dans tout ce temps-là, je veux être une bénédiction là. Alors, le fait que le Seigneur a choisi le lac de Galilée pour parler à ses futurs disciples, c'est très intéressant. C'est peut-être une déformation professionnelle qui me le dit, mais regardez où ça se trouve sur la carte. Vous savez, le lac de Galilée était le seul endroit où la Palestine pouvait voir tant de pays étrangers d'un seul coup. La Syrie dans le nord, ensuite la Décapole avec les villes grecques, ensuite ailleurs, d'autres villes et d'autres nations, y compris la Jordanie, tout d'un seul coup. Mais les disciples voulaient, et les Juifs voulaient prendre toutes les bénédictions pour eux. Ce n'est pas un peu notre cas, quelquefois? On n'a pas été convertis pour tout garder pour nous. On était convertis pour tout donner aux autres. Dans Genèse 12, il est dit, « Mon peuple sera une bénédiction, parce qu'il lui donnera une bénédiction, mais il sera une bénédiction aux autres nations aussi. » Et ce matin, dimanche matin, je ne peux pas ne pas oublier. Je ne peux pas oublier Jean-Daniel et Pascaline et votre fille Mélanie et ceux qui sont au champ du Seigneur ailleurs, avec nous, main dans la main. C'est ça l'Évangile. Nous sommes là pour plonger les filets dans l'eau profonde. L'eau profonde. Mais il y a quelque temps, c'était l'Afrique du Nord. Maintenant, c'est fantastique de savoir ce qui se passe en Afrique du Nord. Fantastique. Il y a quelque temps, c'était pour l'Iran. Vous savez une chose? Il y a plus de conversions journalièrement en Iran que dans n'importe quel autre pays en dehors de l'Inde et de la Chine. On dit qu'il y a 1 million de chrétiens évangéliques aujourd'hui en Iran. Et il y a quelques années, il y avait peut-être 100. C'est fantastique ce que le Seigneur fait. Lançons nos filets dans l'eau profonde. Connaissez le nom du pays que je trouve le plus difficile au monde? C'est le pays que j'aime le plus. C'est la France. C'est un pays difficile. Hein? Vous savez ça? On est des gens compliqués. Hein? Avec nos arguments, nos discussions, nos pour et nos contre. Et c'est la même chose quand on sort. Mais le Seigneur va travailler un jour en France. Est-ce que nous sommes prêts à lancer nos filets dans l'eau profonde de la France, du pays de Gex, du Midi pour nous, pour Lille? Est-ce que nous sommes prêts à lancer? Est-ce que nous pouvons croire que le Seigneur va travailler là? Il nous choisit pour qu'on soit des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est le début de devenir un disciple. On n'a pas le droit de dire qu'on est chrétien si on n'est pas disciple. Hein? Vous savez ça? C'était Acte 11 et verset 25. Acte 11 et verset 25. Cette équipe devait devenir des pêcheurs d'hommes. Je trouve que c'est un jeu de mots fantastique que le Seigneur a utilisé là. C'est presque comme s'il avait dit à cette équipe de pêcheurs, je vous coince là. Parce qu'un pêcheur, il se lève tôt le matin pour pêcher. Un pêcheur, il ne laisse pas son ombre effrayer les poissons. Hein, vous voyez? Et nous n'avons pas à laisser notre personne effrayer l'autre. Un pêcheur sait quand il faut lancer l'appât. Un pêcheur sait quel appât qu'il faut dans telle ou telle situation. Et c'est la même chose avec les pêcheurs d'hommes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est cette deuxième étape pour moi. Le Seigneur les a reçus. Il a envoyé les 70. Il ne leur a pas dit, mais je vais vous donner toutes les instructions. Il a compté sur la connaissance de l'Ancien Testament, de la Bible. Il a compté sur ce qu'ils avaient reçu de lui. Il a dit, maintenant, je vous envoie pour prêcher et délivrer des gens des démons. Et si, un de ces jours, on convoquait les jeunes de l'Assemblée, en disant, on va vous envoyer maintenant. Vous allez dans les rues de Ferney-Voltaire, dans les rues de Genève. C'est plus dangereux à Genève que Ferney-Voltaire. Hein? Vous allez à côté là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'on dirait oui, hein? On est d'accord d'y aller? On est d'accord d'y aller? Prends-moi, Seigneur. Il les a choisis. Il avait une telle confiance. Et moi, pour moi, c'est une leçon, c'est une claque. Quand je dois déléguer, je trouve ça difficile de déléguer. Un jour, il y avait un gars auquel je voulais déléguer, qui s'appelle Claude, il est devenu médecin par la suite. Et en parlant ensemble, Claude m'a dit, tu veux vraiment déléguer? J'ai dit, oui, 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 Claude, je veux déléguer. Mais Claude, si dans un an, attends Claude, en ce moment, je sais mieux faire que toi. Mais si dans un an, tu ne sais pas mieux faire que moi, j'aurais failli ma tâche. J'ose dire que c'est la tâche des anciens, des pasteurs, C'est la tâche des responsables de déléguer, de trouver des gens en qui Dieu a confiance. Parce que Philippiens 6, que je n'hésite jamais de répéter, dit ceci. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son salut. J'arrive à une troisième étape avant de terminer. La troisième étape, lisez donc Jean 6. Là, le Seigneur a enseigné tout ce qu'il voulait enseigner sur sa personne, sur ses origines célestes, sur le fait qu'il allait revenir, mais sur le fait qu'ils allaient devoir peut-être payer de leur vie, que c'était dur de le suivre. Et il y avait un prix. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean? Beaucoup de gens s'en allaient. Beaucoup de gens s'en allaient. Un jour, dans un camp de ski à la Bessonne, j'avais invité un homme qui avait été ivrogne. Je l'avais invité pour qu'il rende témoignage aux jeunes qui étaient là au camp. Je trouvais ça formidable. Il va dire, mais j'étais alcoolique et maintenant c'est fantastique d'être chrétien. Il a commencé en disant, j'étais alcoolique et je suis devenu chrétien, c'est très dur. Moi, je m'étais dit, je me suis trompé d'adresse, j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre de venir. Mais ce qu'il a dit, c'était juste. C'est pas facile d'être chrétien. Attention, vous avez réfléchi avant de vous engager avec Jésus-Christ? Ce que j'ai voulu partager tout à l'heure concernant la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est une promesse, un accord qui ne peut pas être rompu. Et si nous sommes chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous sommes à Jésus-Christ. Et s'il nous demande de faire ceci ou de faire cela, nous avons à le faire. Nous n'avons pas à dire, Seigneur, j'aurais préféré être ailleurs. Nous avons à être là où le Seigneur nous envoie. Alors, dans cette troisième étape, le Seigneur pose une question aux disciples. Les disciples avaient l'air troublés, mais si c'est ça être chrétien, si c'est ça suivre Jésus-Christ, ils étaient là en train de se poser les questions. Et il y a une des phrases les plus tristes de toute la Bible qui vient là. Et Jésus les regarde et dit, « Et vous, vous voulez aussi vous en aller, vous ?» Il avait son équipe d'hommes et de femmes choisies. Et vous voulez vous en aller, vous aussi? Son cœur a dû être brisé. Son cœur a certainement été brisé à mon sujet et puis au tien quelquefois. Quand tu as dit, demande pas ça à moi, Seigneur. J'ai autre chose à faire. Et vous voulez aussi vous en aller? Bien-aimé, je vais repenser à cette phrase pendant la nuit quand je ne pourrai pas dormir ce soir. Je vous souhaitais que vous l'entendiez aussi et vous voulez aussi vous en aller. Mais vous pourrez m'interrompre là. Il me dit, mais Simon Pierre l'a interrompu. C'est vrai, il l'a interrompu. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, nous n'avons personne d'autre qu'à des paroles comme les paroles de Jésus-Christ. Personne d'autre qui peut nous tenir en main comme lui. Ce matin tôt, quand j'ai répondu à mes mails, j'ai répondu à un frère, loin, loin d'ici, qui m'a cité tous les problèmes qui lui arrivent avec sa voiture, avec ses pieds et sa jambe. Là, j'étais en communion avec lui, avec des problèmes de santé en général. Il y avait 4 gros problèmes. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas aller au culte sans répondre à ce frère. Et peut-être nous allons nous trouver là. Mais Jésus est fidèle. Et je lui ai répondu, mais tu sais, Roger, il s'appelle Roger, mais vous ne le connaissez pas. Tu sais, Roger, celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5 et 24. À un moment donné, quand le Seigneur dit, c'est lui qui nous a choisis. Vous savez ça, hein? C'est Jésus qui t'a choisi, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Jésus qui t'a choisi parce qu'il t'aime. C'est Jésus qui t'a choisi parce qu'il a des projets pour ta vie à toi. Aucune vie n'est trop éloignée de lui. Il a des projets pour toi, le Seigneur. Et il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et le Seigneur dit autre chose. Il y a une promesse et j'aimerais vous donner, c'est psaume 37, verset 24. Psaume 37, verset 24. Puis si quelqu'un tombe, il ne restera pas par terre, car le Seigneur lui prend par la main. Si quelqu'un tombe, il ne restera pas par terre, car je lui prendrai par la main. Oh, combien de fois j'ai senti cette main qui venait. Pas vous. Et c'était fantastique. Dernière chose que j'aimerais dire, le Seigneur avait des projets en vue pour ses disciples, ces gens qui allaient porter son nom. Dans Matthieu 9, 35 et 36, et encore dans Jean 17 et 20, parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes, il avait promis de prier pour nous. Mais vous savez qu'il avait promis quelque chose de plus que ça? Il avait promis de prier pour nous, mais il y a quelque chose de plus qui est si important. Il a promis de prier pour ceux qui croiraient en lui, par notre parole à nous. Je trouve ça fantastique. Est-ce que Dieu t'appelle à le servir? Thierry Sivalt, que je connais bien, a écrit quelque chose qui était une bénédiction pour moi. Si Dieu t'appelle à le suivre, à le servir, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à te dire. Si le Seigneur t'appelle à le servir, à le suivre, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à te dire. J'aimerais qu'on passe un instant dans la prière silencieuse avant que Philippe ne vienne pour nous communiquer les annonces. Seigneur, merci de nous avoir appelés. Tu nous appelles ici tous, sans aucune exception, à devenir des pécheurs d'hommes et de femmes, si on te suit. Aide-moi à te suivre aujourd'hui, à te suivre là où tu m'amènes, pour manger chez des amis chrétiens, pour témoigner à un couple inconverti après chez eux. Seigneur, viens à notre secours. Apprends-nous à te suivre et à devenir des pécheurs d'hommes et de femmes afin de glorifier ton nom et de porter sérieusement le nom de chrétien. Amen.
Bonjour à chacune et chacun. Je partage avec vous les annonces. La semaine, c'est toujours une semaine de vacances qui va être calme. Samedi, le conseil se retrouve pour une retraite, toute la journée. Merci de penser à nous. Samedi, on a aussi un apéritif, en fin de journée à 18h ici, un apéritif de départ de Fanny et Ephraim et leurs enfants. En fait, ils ont déjà déménagé, mais ils sont encore là. Ils partiront encore une semaine plus tard. C'est important de passer ces temps ensemble et de les accompagner aussi dans ce nouveau projet qui se met en place pour eux. Dimanche prochain, le culte ici, à 10h30. Le dimanche d'après, il n'y aura pas de culte ici. Donc, ne venez pas ici. On est tous cordialement invités à passer la journée ensemble à la Lècherolles. Donc, rendez-vous, je le dis déjà si quelqu'un n'était pas là dimanche prochain, rendez-vous sur le parking de la Vatée jusqu'à 10h30, donc entre 10h et 10h30, et puis le culte a lieu à 11h. Je vous rappelle aussi le week-end du Col des Mosses, 13 et 14 septembre, la nouvelle série Alpha Couple, elle et lui, qui va commencer aussi en septembre. C'est important d'entretenir, de travailler notre relation avec Dieu, mais c'est aussi important de la travailler entre nous, c'est aussi important de la travailler, de l'enrichir aussi au niveau des couples. Et on vous invite vraiment à participer à ces rencontres qui sont là pour ça. C'est vrai que le couple et la famille sont les éléments et les unités de base de la société, mais aussi de l'Église. Et c'est important aussi de travailler cela. Je vous rappelle aussi notre assemblée de membres qui aura lieu le 30 septembre sur les commissions, puis aussi sur sur les commissions au niveau de l'Église, de ce qui va se mettre en place, et aussi au niveau du bâtiment. Et juste des informations par rapport à où est-ce qu'on en est dans les projets. Sinon, je vous invite à vous lever et je vous partage encore deux versets dans Hébreux 13, les versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.